question, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Alors non seulement il a la main verte, et encore, elles ne sont pas si vertes que ça aujourd'hui, Philippe.
Il y a eu pire.
Il y a eu pire, franchement, elles sont très très propres.
Bon oui.
Je ne vois pas de jour. En tout cas, les réponses, vous les avez.
Je les ai.
Voilà, c'est ça.
Je les ai toutes emmenées ce matin, là, il n'y a pas de problème.
Eh bien, n'hésitez pas. Vous n'avez pas plein
de poches. Plein de réponses.
Ah bah oui.
Bah oui.
Ça tombe bien parce que les auditeurs ont plein de poches et plein de questions.
Plein de la bouche.
Exactement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en matière de jardin, jardins qui sont à l'honneur ce week-end, on en reparlera d'ailleurs à la fin de cette émission. Mais si vous avez des questions concernant les plantes, le jardin, vous n'hésitez pas. Notre spécialiste Philippe Munier est là pour vous répondre. 02 99 67 35 35.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Un rendez-vous dont vous avez l'habitude, hein, parce que même pendant le journal, avant même qu'on vous annonce l'arrivée de Philippe, vous êtes déjà sur le téléphone et sur le standard de France Bleu Armorique. C'est le cas de Janine, Philippe. Bonjour Janine.
Bonjour Philippe Munier.
Bonjour Janine. Voilà. Et puis bonjour Yann aussi, il est avec moi ce matin.
Ah oui, aussi, hein, toute l'équipe.
Bon.
Et puis une gentille dame qui prend les appels. Hein.
Mais oui, en l'occurrence c'est Aline, cette gentille jolie dame. Alors,
elle est très gentille.
Janine, voilà, moi, vous nous appelez d'où?
Ma question est, je voudrais connaître les bonnes dates pour semer du trèfle nain blanc. J'en ai semé tous les mois, chaque année, à tout moment, et tout, et ça ne pousse pas.
Ah là, vous n'avez pas de chance, parce que bon, la meilleure période, c'est avril-mai, hein, jusqu'au, on va dire, 10 juin. Vous voyez, vous êtes en retard que d'une journée, c'est bon. Donc, c'est la meilleure période parce que la terre est encore tiède, enfin, devient tiède, elle est encore humide, donc ça permet la meilleure germination. Après, on laisse tomber pendant l'été, et on peut refaire une deuxième tentative, si je puis dire, à partir, grosso modo, du 15 septembre, entre le 15 septembre et le 15 octobre. Ça, c'est vraiment les meilleures périodes. Mais ce que je comprends pas, c'est que vous ayez pas eu plus de résultats, parce que le trèfle, c'est quand même une plante qui pousse, qui germe facilement, qui pousse bien, surtout si votre sol est pauvre, hein. Plus le sol est pauvre, plus ça pousse bien, plus le sol est riche, plus ça a du mal à pousser. Alors, peut-être que vous avez un sol un peu trop riche, hein, donc et ben dans ce cas-là, il faudra mettre autre chose. Peut-être, au lieu de mettre du trèfle blanc, mettre du trèfle incarnat qui supporte un petit peu mieux les terres riches.
Voilà, voilà Janine.
Alors, c'est avril-mai.
Avril, mai, jusqu'à un petit mi-juin, mais en fait c'est une plante qui aime pas trop la sécheresse, hein, même si ça reste vert pendant toute la période sèche.
Trop de soleil n'est pas bon aussi.
Ah bah trop, ça aime bien, mais surtout quand ça a levé. Donc il faut pour la première partie, donc la germination de la graine, la levée de la graine, il faut un petit peu de chaleur, mais pas trop, et surtout beaucoup d'humidité, enfin suffisamment d'humidité pour qu'il y ait un bon développement racinaire qui se fasse et que la plante puisse après supporter la chaleur estivale.
Avec une deuxième chance, pour le coup, à l'automne, quoi.
Avec une deuxième chance, pour le coup, en fin d'été, début d'automne.
Voilà, Janine, vous
entre
tentez...
Entre le moment où on le sème et qu'on le voit sortir, il faut compter combien?
Alors, il faut compter, grosso modo, une petite dizaine de jours, en moyenne.
D'accord.
Alors après, ça dépend de la température du sol, hein, de ses fonctions. Mais disons que si vous semez plutôt début avril, ça va être du 15 jours, 3 semaines. Si vous semez plutôt fin mai, où la terre est bien chaude, ça va être plutôt du 8-10 jours.
D'accord, donc ni trop froid, ni trop chaud, et plutôt humide.
C'est ça hein, voilà.
Que ça pousse d'une manière générale. Voilà Janine, à très bientôt. On accueille Marie-Yvonne maintenant à Jonzé. Bonjour Marie-Yvonne.
Oui, bonjour messieurs. Voilà, j'ai un petit problème avec mon amaryllis. Tous les ans, il fleurit. Cette année, il veut rien savoir.
Ah.
Il a que des feuilles.
Oui, alors ça c'est le coup classique, hein, c'est parce que l'année dernière, à la fin de la floraison de votre amaryllis, et même pendant la floraison, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire bien lui donner à manger, parce que les bulbes ont toujours un an d'avance, donc pendant que la plante est en train de fleurir, elle est déjà en train de préparer la fleur de l'année d'après. Si à ce moment-là, elle a pas assez à manger, si on lui donne pas suffisamment de nutriments, hein, eh bien le bulbe ne peut pas se constituer, en tout cas il se reconstitue en feuilles, mais prépare pas de fleur parce qu'il estime qu'il a pas eu assez de réserve pour pouvoir faire une fleur. Et donc, il l'attend tranquillement l'année prochaine. Donc, maintenant, avant qu'il ne perde ses feuilles, là, on est un petit peu tard, hein, quand même. Mais disons que l'idéal, c'est en mars, avril, mai, jusqu'à maintenant, c'est de bien l'alimenter toutes les 3 semaines avec un très bon engrais organique. Organique, je précise bien, plante à fleurs. Et de manière à bien enrichir le bulbe. Et puis après, on le sort dehors, on le met à l'abri des limaces parce qu'elles aiment bien, elles adorent les feuilles. Mais par contre, il faut qu'il fane, qu'il sèche tranquillement, doucement, qu'il se repose. Et quand il va se réveiller à partir de fin septembre, début octobre, hein, vous le rentrez à la maison, vous commencez à le réarroser tout doucement. Et à ce moment-là, eh bien, il aura accumulé suffisamment de nourriture, il sera bien reposé. Et donc, il fera une belle fleur pour le mois de décembre prochain.
Et dès qu'il a une fleur, on pense justement à bien le nourrir pour l'année suivante.
Et du coup, on recommence tout de suite. Hein, dès que la fleur arrive, eh ben, on commence déjà à redonner un petit peu d'un engrais riche en potasse, particulièrement à ce moment-là. Et puis ensuite, dès que la fleur fane et que les feuilles arrivent, eh ben, on donne un engrais un peu plus riche en azote pour nourrir les feuilles. Et hop, on a un bel gros amaryllis l'année suivante.
Et ben voilà,
faut toujours avoir un an d'avance.
Ainsi va le cycle de la vie. C'est poétique, hein, ce matin, pour le coup. Voilà, Marie-Yvonne, très belle journée.
Merci
à vous
aussi, monsieur.
À Jean-Zé.
Merci,
au revoir. Hein. On va rejoindre Marie-Madeleine maintenant à Saint-Malo-Grand. Bonjour, Marie-Madeleine.
Oui, bonjour, monsieur.
Dites-nous, toi, appelez-moi Yann, on est entre nous, Marie-Madeleine.
Oui.
Philippe vous écoute, il est là, oui. Quel est votre souci?
Je voudrais savoir, j'ai des pivoines dans mon jardin.
Oui.
Et là, elles sont défleuries, forcément. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut les couper ou les laisser faner toutes seules et les couper après?
Alors, la fleur de pivoine, quand elle défleurit, quand elle fane, c'est pas très joli. Donc, effectivement, vous avez intérêt à couper, mais que la tête. Hein, ne coupez que la tête.
Alouette,
absolument. Et dans 15 jours, 3 semaines, vous pourrez couper, parce que vous allez voir les tiges qui ont porté les fleurs dessèchent elles aussi. Mais dans un premier temps, elles sont pas trop moches. Par contre, dans 15 jours, 3 semaines, elles commenceront vraiment, ça sera visible qu'elles sont en train de dessécher. Là, vous pourrez, parce que c'est toujours pareil, les substances nutritives qui sont contenues dans les feuilles, dans les tiges, quand la feuille sèche, elles redescendent vers les racines et ça permet de prévoir la flore, de fabriquer, de mettre en route la floraison. Toujours pareil, la nature un an d'avance,
ouais. Hein,
de mettre en route la floraison de l'année prochaine. Donc il faut laisser défleurir et dessécher un petit peu. Alors pas trop parce que sinon c'est moche, mais quand ça commence à bien dessécher, ça veut dire que le maximum de nutriments est redescendu dans la racine. À ce moment-là, clic, on coupe la tige fanée et ça fait tout joli. Mais dans un premier temps, vous enlevez les fleurs fanées, c'est vraiment pas joli. Et faites un petit apport de compost, ça leur fera pas de mal du tout.
Et ben voilà. Marie-Madeleine, on vous souhaite une belle journée.
D'accord.
À Saint-Malo-Grand.
Oui, merci,
dans
monsieur. Merci.
Quelques minutes, on va retrouver Joseph et Paulette. On parlera notamment de rosiers, mais également de yucca dans un instant.
Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
La LGV arrive en Bretagne.
France Bleu suit l'événement.
La ligne à grande vitesse.
J-21. Vous aimez chanter?
J'ai une conception personnelle de l'ouvrage.
Jouer de la musique? Seul?
C'était vrai.
Ou en groupe?
Ce n'est pas un citrouille, on parle de plusieurs de deux.
Alors, pour vous, France Bleu Armorique va orchestrer le train de la musique.
Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention. Hein.
Pour tout savoir sur ce 21 juin exceptionnel, rendez-vous sur francebleu.fr.
Alors reprenons, hop, alors.
Vous bricolez, vous jardinez, vous entretenez régulièrement votre maison. Il vous reste forcément des pots de colle, de peinture, des sacs d'engrais ou des insecticides entamés. Surtout, ne les jetez pas à la poubelle. Eco-DDS organise pour vous les journées déchetterie. Samedi 17 juin de 10h à 17h, rapportez vos déchets chimiques sur le parking Leroy Merlin de Quimper. Si tu ne vas pas à la déchetterie, les journées déchetterie viennent à toi. Liste des produits concernés et infos pratiques sur eco-dds.com.
Sur les quais en centre-ville, sur le halage le long de la Vilaine, à Rennes, ma radio, c'est France Bleu Armorique. Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Toujours avec Philippe Munier, notre expert jardin, il attend vos questions bien évidemment au 02 99 67 35 35. Chose promis, chose due, on va rejoindre Joseph pour parler de rosiers à Bréal sous Montfort. Bonjour Joseph.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Dites-nous tout, Philippe vous écoute, comment on peut vous aider?
Oui, eh bien, écoutez, voilà, j'ai quelques rosiers chez moi là et les feuilles sont devenues marron. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut trouver en jardinerie pour pallier à ce problème.
Philippe,
Alors, elles sont que marrons ou il y en a qui sont jaunes?
Non, plutôt que marrons, taffées, hein, détaffées. Elles ne sont pas devenues toutes marrons, il y a des tasses dessus.
D'accord. Mais voilà. elles ne sont pas encore devenues jaunes, elles ne sont pas encore tombées.
Je pensais que c'était du puceron, mais non.
Non, moi je pense que c'est la maladie de la tache noire.
Oui, c'est possible, oui.
Bah oui, donc alors, la maladie de la tache noire, ça commence déjà, les feuilles sont vertes, et puis ensuite on voit des taches noires noirâtres, marronâtres, vous avez raison, c'est pas vraiment franchement noir, se former. Ensuite la feuille va devenir jaune, puis elle va tomber.
Oui.
Et ça c'est un champignon, mais c'est un champignon qui attaque dès le mois de mars. Hein. On le voit pas au mois de mars, mais il est là, il est en train de se développer, tranquille.
Oui.
Alors, ce qu'il faut... pour l'année prochaine, parce que là c'est fichu pour cette année, pas acheter de produits en jardinerie, ça sert à rien, si ce n'est à nous nourrir la jardinerie. Parce que donc ce qu'il faut l'année prochaine, c'est dès le mois de mars, pulvériser régulièrement sur votre vos rosiers des produits à base de bicarbonate de sodium, on dit, hein, c'est son vrai nom, bicarbonate de soude, c'est le nom commercial. C'est des produits qui coûtent pas cher du tout. Si vous prenez même du bicarbonate pur, ça coûte encore moins cher. Vous mettez une cuillère à café par litre, donc c'est des petites quantités, et tous les 10-15 jours, vous pulvérisez de mars jusqu'à juin. Alors évidemment, c'est un petit peu fastidieux peut-être.
Très bien.
Par contre, vous empêchez la formation de cette tache noire. En pulvérisant, il faut bien faire attention, je ne rappellerai jamais assez, on pulvérise toujours de bas en haut. Il faut mouiller d'abord le dessous de la feuille avant le dessus, hein, pour avoir un vrai traitement qui soit efficace. Et si vous faites ça, vous n'aurez plus jamais de maladie de la tache noire, sachant que les feuilles qui sont malades vont tomber, mais une nouvelle génération de feuilles va renaître juste après, qui, elle, en général, n'a jamais la maladie.
Et puis le bicarbonate de soude, pour le coup, ça coûte 3 francs 6 sous. Ça sert en cuisine.
Voire moins cher.
Il n'y a même pas les 3 francs, et 6 sous seulement. Et ça sert en cuisine, ça sert à nettoyer, ça sert à tout. C'est formidable.
Enfin, Yann, pour information, il n'y a plus de francs depuis 2002 quand même.
C'est pour ça que personne ne veut que je paye avec. Voilà, Joseph.
Une autre petite question, un avocat qui a pris un coup de froid cet hiver, les feuilles ont jauni, noirci, et puis celle-là tombe. Par contre, il est bien reparti, les feuilles qui sont devenues un peu gelées, là, elles tombent, mais ça repousse tout ça, je suppose, quoi. Hein.
Alors, sur un avocat, oui, il n'y a pas de problème, ça va redémarrer. Oui, il a pris un coup de froid quand même, hein, je pense, cet hiver.
Oui. Voilà, s'il a pris un coup de froid, en fait, quand on s'était absenté, puis il avait pris un coup de froid.
D'accord,
voilà.
Ok, juste
vous inquiétez pas, vous attendez, alors, il y a deux solutions, soit il a fait trop froid, il va pas s'en mettre, soit il a fait juste un petit peu froid, et il va vous faire une deuxième feuillaison, et il n'y a pas de problème.
Redémarre.
Merci Joseph,
merci beaucoup,
à bientôt,
bon à tous.
Au revoir. On rejoint à Vannes Paulette, bonjour Paulette.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez un petit souci, Paulette, avec un yucca.
Oui, voilà. Alors, donc, j'ai un yucca dont les feuilles sont devenues jaunes, blanchâtres jaunes, là, d'un seul coup.
Alors, c'est un yucca d'appartement.
C'est ça.
D'accord.
Ah oui, il est toujours resté dans l'appartement, oui.
Mmh. Non, mais c'est parce qu'il y a des yuccas dehors aussi, hein, donc c'est pour ça. Ça aurait pu être un yucca de jardin. Hein. Alors, sachant quand même qu'en Bretagne, le yucca d'appartement, il peut même aller dans le jardin, parce qu'on est en Bretagne, et qu'il ne fait pas si froid que ça l'hiver, sauf cet hiver, effectivement, où là, de temps en temps, il se passe des choses. Mais donc, le yucca d'appartement, alors il faut se rappeler que les yuccas tous, hein, ils viennent tous de la région du Yucatan, hein, c'est au Mexique. Ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, et de minimum d'eau. Et très souvent, quand ils font la tête, c'est parce qu'ils ont eu trop d'eau. Hein. Et les racines sont très, très, très fragiles. Quand il y a trop d'eau, elles pourrissent. Et dans ce cas-là, la plante dessèche. Hein. C'est idiot, quand la racine pourrit, la feuille dessèche. Mais elle risque de mourir. Donc si c'est un excès d'eau, parce que vous avez cru que ça lui ferait du bien, ou parce que le bac à réserve d'eau ne fonctionne plus bien, ça arrive aussi, ou parce que, peut-être une erreur d'appréciation, voilà. S'il y a trop d'eau, il faut absolument le dépoter le plus vite possible, le sécher dans du sable sec ou dans de l'argile sèche le peu de racines qui restent et essayer de le rempoter, mais ça marche pas forcément, et dans certains cas on est obligé plutôt de bouturer la partie aérienne qui elle va redémarrer, parce que la partie souterraine est déjà complètement pourrie.
D'accord.
Ouais.
En fait, j'ai encore quelques feuilles vertes en haut.
Mais faites attention, c'est que vous l'avez trop arrosé s'il fait ça.
Donc là, on laisse un peu.
Là-bas, on laisse dessécher un petit peu, ça va lui faire le plus grand bien. Il faut, pour le yucca, il faut que votre plante, la terre, dessèche complètement entre deux arrosages.
D'accord.
Ah Et ben voilà. Besoin de mettre un ajout d'engrais du
style. Oh là là, le moins possible, deux fois par an maxi, ça suffit. Une fois au mois de mars, une fois au mois de septembre, et ça suffit largement.
Et c'est la plante
c'est,
chameau, quoi.
C'est voilà, c'est des plantes de terre pauvre, ouais. de terre très chaude, très sèche, très pauvre. Et là, ils sont beaux. Si vous mettez trop d'eau et trop d'engrais, vous le faites pourrir, et du coup, c'est tout moche, tout nul, tout blanchâtre, jaunâtre,
donc
comme vous décrivez là.
Donc moi, on s'en occupe quasiment. Et mieux
presque. Ouais. C'est une plante qu'on peut oublier. Il y en a quelques-unes comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes.
Je les mets sur YouTube en sortant de la radio. Merci Paulette.
Bientôt. Bon dimanche, merci.
Au revoir. Dans quelques minutes, on va retrouver Anne-Marie, Guillemette également et Marie-Annick. Juste avant cela, une petite question pour vous de Marie-Annick de Bazouges-la-Pérouse. Peut-on actuellement déplanter des patates douces, de la terre pour les mettre sous serre?
Alors effectivement, bon, ça va être une petite opération qui va stresser. Hein. Alors on peut encore jouer à ce petit jeu-là. Alors sachant, je rappelle quand même que la patate douce, c'est pas vraiment un légume de nos contrées, c'est un légume parfaitement tropical, sauf que depuis quelques années, une société du centre de la France, de l'Orléanais, je crois, a développé des variétés adaptées à un climat moyen de la France, avec des jolies couleurs en plus. Il y a des jaunes, il y a des oranges, il y a des blanches, il y a vraiment une gamme. Il y a quatre couleurs de mémoire, il y a quatre couleurs de chair, et ces patates douces. Bah, se développe plutôt pas trop mal du tout, mais on n'oublie pas qu'elles sont d'origine tropicale, donc elles aiment bien la chaleur. Donc c'est très astucieux de la part de notre auditrice de les sortir de dehors pour les mettre sous le tunnel. Ça permettra d'avoir quelque chose de plus gros.
D'accord.
Donc, oui, on peut les enlever. On emmène bien toute la terre qui collait dessus, donc on les arrose bien la veille, ou même l'avant-veille, bien pour que ça colle.
D'accord,
ensuite,
ouais.
On laisse un petit peu sécher quand même pour que ça colle bien sur la racine. Mmh. On enlève tout ça et on plante tout de suite dans la serre. Alors, je rappelle quand même que la patate douce, c'est un volubilis, hein, c'est une plante de la même famille que le liseron. Donc, le feuillage, c'est un feuillage grimpant. Donc, dans la serre, vous avez intérêt à mettre un filet si vous voulez pas que ça prenne toute la serre. Hein, vous mettez un filet pour que le feuillage monte à la verticale au lieu de couvrir tout le sol de votre serre. Et puis, si vous l'arrosez copieusement, hein, tropical, et 6 mois de flotte, donc il faut bien l'arroser, une bonne chaleur de l'eau, et il y aura des belles grosses patates douces dès le mois de novembre-décembre.
Et ben voilà, n'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions, 02 99 67 35 35. Ce matin, les experts jardinage, comme chaque semaine, avec Philippe Meunier.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qui a sonné l'heure. Des adieux à jamais. Et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, un peu vent, que seul est l'heure. Des adieux à jamais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens, tu pleures. Que tu blémis à présent, que ce n'est l'heureux. Des adieux à jamais, je suis heureux. Tu te
dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, en mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'aime. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret.
Serge Gainsbourg, je suis venu te dire que je m'en vais. Rassurez-vous, il est là, il reste là.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Bon, je vais tout de suite rassurer votre famille. On va le libérer quand même à 10h hein, pour qu'il rentre. Mais en attendant, il est avec nous. Philippe Munier, notre expert jardin. Vous pouvez bien évidemment lui poser vos questions. 02 99 67 35 35. On va partir à la motte avec Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour messieurs. Alors moi j'ai une petite question sur pour les artichauts. J'ai des pieds d'artichauts assez conséquents. J'ai des petites têtes d'artichauts qui arrivent maintenant. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il fallait libérer un peu les pieds de toutes les feuilles, faire une sélection sur les artichauts, ou est-ce que je laisse venir comme ça jusqu'à ce que ce soit mûr, et à quelle période, quand est-ce qu'on sait que c'est mûr aussi, les artichauts? L'année dernière, je me suis fait piéger, je laissais, et puis bon, au final, j'ai vu la fleur apparaître, et puis c'était la première fois, donc...
Remarquez, c'est pas grave, c'est joli les fleurs d'artichaut.
Ah, c'est très beau. Hein, oui.
Voilà, donc en fait, vous avez déjà eu le plaisir du spectacle de l'artichaut en fleurs, et ça, c'est un vrai spectacle, c'est magnifique. Alors, comment dirais-je, la sélection au niveau du pied, ça se fait traditionnellement en Bretagne, entre la Saint-Patrick et la Saint-Yves. Sachant que la Saint-Patrick, c'est le 17 mars, la Saint-Yves, c'est le 19 mai. Donc, vous voyez, c'est fini, on le fait plus. Par contre, on a quand même une deuxième chance, là aussi, on peut un petit peu éclaircir la souche, mais plutôt, là, toujours pareil, entre, grosso modo, le 15 septembre et le 15 octobre, fin octobre, début novembre. Allez, on va aller jusqu'à 11 novembre maxi. Disons qu'il faut si vous voulez les replanter, les rejets, il faut que la plante ait eu le temps de raciner avant les premières gelées. Hein, donc, 15 novembre, on est un peu tard. 15 septembre, c'est super facile. On arrive à refaire une plantation sans aucun problème en Bretagne, hein, en suivant un petit peu l'arrosage. Ça, c'est la première chose. Et vous avez toujours intérêt à le faire, donc, tous les ans, en ne gardant que 3 pouces par pied, donc au printemps en général, c'est mieux le printemps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand est-ce qu'on sait que c'est mûr? Eh bien, faut bien se rappeler que l'artichaut, c'est un chardon. Hein. Donc, un chardon, c'est fait pour piquer. Donc, tant que, quand vous mettez votre main à plat sur l'artichaut, ça ne pique pas, c'est qu'il est en train de grossir. Dès que vous sentez que si ça continue, il va bientôt piquer, hein, eh bien, ça veut dire qu'il est parfaitement à point. Il va bientôt éclore. Et comme c'est le but du jeu, c'est pas qu'il éclose, mais que vous le mangiez, eh bien, vous le coupez à ce moment-là.
Génial. Ah, c'est un bon truc. C'est, voilà.
C'est comme ça
simple qu'on et pratique.
Les gens qui les récoltent, hein, ils mettent la main dessus. Voilà. Ouais. C'est hop, ça va peut-être bientôt piquer. C'est le moment, je peux le cueillir.
Eh ben voilà, Anne-Marie. Voilà.
Vous savez tout.
Mais je vous en prie, très belle journée à la motte. Au revoir. On va partir dans le Morbihan, Séné, exactement, avec Guimette. Bonjour, Guimette.
Bonjour messieurs, bonjour à Radio France Armorique. Voilà, moi j'aimerais savoir si on peut arroser les pommes de terre avec du savon noir ou du savon pour éliminer les doryphores.
Ah bah, les fameux doryphores.
Alors, le doryphore, il est adulte, ça sert à rien. Hein. S'il est un jeune larve, c'est efficace, l'eau savonneuse, mais en faisant au minimum 3 jours de suite. L'idéal pour le doryphore, c'est quand même d'aller dans la planche, même si c'est casse-pied de chez casse-pied, hein, d'écraser les œufs. Donc vous tournez les feuilles, vous voyez des petits paquets de jolis œufs orange, vous les écrasez, vous voyez des petites larves qui sont en train de boulotter activement le bord de vos feuilles, vous les écrasez activement, vous les mettez dans une boîte avec de l'alcool à brûler pour qu'ils dessèchent net, et puis si vous voyez des adultes, ben vous les écrabouillez, soit vous les mettez dans l'alcool à brûler aussi pour leur apprendre à vivre, et voilà, il faut absolument les éradiquer, et le savon noir n'est pas assez puissant pour ça.
D'accord.
Bon, merci beaucoup.
Mais je vous en prie, merci Guimette, au revoir. On va rester dans les pommes de terre avec cette fois-ci Marie-Annick à Cornu. Bonjour Marie-Annick.
Bonjour messieurs.
Vous aussi une question de pommes de terre.
Oui, tout à fait. Alors, c'était pour savoir si on pouvait utiliser de la cendre pour traiter le mildiou des pommes de terre.
Alors, en fait, les champignons qui se développent sur le feuillage, comme le mildiou, hein, et comme beaucoup d'autres, hein, l'oïdium, le botrytis et compagnie, se développent sur le feuillage, donc sur une partie qui est organique. Hein, donc, lorsque l'on met sur les feuilles une partie minérale, on bloque ou on gêne considérablement le développement de la maladie. Dans le cas de la cendre de bois, on est sur quelque chose qui est complètement minéral, donc une cendre de bois très tamisée, finement tamisée, et soit poudrée, soit pulvérisée. Alors, il faut un pulvérisé. Il faut bien le tamiser, très très fin, et puis il faut un pulvé qui accepte de faire passer quand même quelque chose d'un petit peu épais, d'un petit peu lourd. C'est possible, oui, ça crée des barrières. On fait pareil avec le lithotam, on fait pareil avec l'argile, hein, toutes ces produits minéraux très fins. On peut les pulvériser sur les feuilles, effectivement, régulièrement, mais il faut quand même savoir que le film de cendre de bois que vous allez mettre, il va limiter la puissance du soleil sur les feuilles, donc il va limiter le fonctionnement de la fonction chlorophyllienne, donc il va limiter la nourriture de la pomme de terre. Donc il faut le faire, mais il faut vraiment que le dosage soit très bien pensé pour qu'il y ait juste un film très fin.
Pour pas étouffer la pomme de terre.
Voilà, et que ça fasse pas, comme j'ai vu des fois, particulièrement c'était avec de la dolomie en l'occurrence, les feuilles étaient toutes blanches. Donc ça veut dire que ça réfléchissait complètement la lumière du soleil, les feuilles ne pouvaient plus se nourrir, ne pouvaient plus accepter de lumière et donc ne pouvaient plus nourrir le plant de patates. Donc il faut faire attention à avoir un dosage très léger, mais c'est efficace. Par contre, à la moindre pluie, ça s'en va, donc il faut recommencer.
Voilà, à utiliser avec parcimonie, Marie-Annick.
Oui, est-ce que je peux poser une deuxième question ?
Rapidement, alors, parce qu'il y a du monde au portillon.
Ok. Pour une clématite qui fleurit un peu en bas et puis en haut, il n'y a presque plus de fleurs. Alors, c'est une plante qui s'étend pas mal et qu'on est obligé de tailler un petit peu pour la contenir. Je voulais savoir s'il y avait une raison particulière à ce que elle fleurit un petit peu dans un endroit et puis moins dans l'autre, en fait.
Alors, est-ce que vous savez quel type de clématite il s'agit, de quel type il s'agit ? Est-ce que c'est une clématite qui fleurit tôt au printemps ? Est-ce qu'elle fleurit plutôt maintenant et pendant l'été ? Est-ce qu'elle fleurit plutôt en fin d'été ? Ou est-ce qu'elle fleurit au printemps et qu'elle refleurit dans l'été ? Au niveau floraison, elle est en fleur quand ?
Alors, je crois que c'est printemps.
Parce que, en fait, ouais. Oui. Allez-y, continuez.
Non, parce que, en fait, là, j'ai pas la réponse à la question, parce que c'est chez ma maman et
d'accord.
Que. Voilà.
Ouais, parce qu'en fait, les clématites, comme les autres plantes, donc il y a des clématites qui commencent très très tôt. Hein, les premières clématites, elles peuvent être en fleurs fin février et jusque pratiquement aux premières gelées, donc début décembre, voire même dans le courant du mois de décembre. Donc il y a une gamme, mais c'est jamais les mêmes, évidemment. Donc plus celles qui fleurissent avant la fin juin, il faut les tailler juste après la floraison. Celles qui fleurissent après la fin juin, il faut les tailler à la fin de l'hiver suivant. Hein. Si on les taille bien, il y a des belles floraisons. Si on les taille mal, on met en péril la floraison.
D'accord.
Eh bien voilà, Marie-Annick.
Très bien, merci beaucoup.
Très belle journée, au revoir. On va aller à Plourère-sur-Rance maintenant, Philippe, rejoindre Colette. Bonjour Colette.
Bonjour, je vous appelle parce que j'ai planté il y a un an environ des petits rosiers buissons avec des toutes petites roses et ils ont pris tout à fait normalement et cette année j'ai des feuilles normales et d'autres la plupart d'ailleurs, qui se replient complètement sur elles-mêmes, qui ressemblent plus du tout à des feuilles, on se demande ce que c'est. Donc je voulais, est-ce que c'est une maladie, est-ce qu'il y a eu un problème d'arrosage, de plantation, je ne sais pas.
Alors déjà, la première chose à faire quand on a des feuilles qui se replient comme ça, c'est d'aller voir pourquoi elles se replient. Donc on prend la feuille, on la déplie, quitte à le faire sous une loupe, hein, si c'est suffisamment petit. Le tout, c'est de voir si c'est effectivement soit des pucerons à l'extérieur qui, comme ils piquent, la plante réagit en se crispant. Soit ça peut être une plante, une petite larve, un petit ver à l'intérieur et qui cherche à se cacher, à se protéger des prédateurs, donc en fermant la feuille autour de lui. Hein. Soit ce sont effectivement des maladies des problèmes d'excès d'eau ou de souffrance quelconque, des troubles physiologiques, on appelle ça. Et ça, vous ne pouvez le voir qu'effectivement en prenant une feuille, en la mettant sous une loupe avec une bonne lumière, et vous ouvrez, vous regardez ce qu'il y a. Enfin, regardez d'abord l'extérieur, puis vous regardez l'intérieur, et vous évaluez à ce moment-là. Donc, la réponse, vous l'avez à ce moment-là. Si c'est une bébête qui est à l'intérieur, ben là, vous êtes bien embêté, parce que c'est très facile, difficile d'aller apporter quelque chose à l'intérieur. Donc, la meilleure solution, c'est d'aller cueillir les feuilles. Hein, vous les cueillez, et toujours pareil, vous mettez ça dans un petit peu d'alcool à brûler, et comme ça, ça les dessèche et s'oxyde tout de suite. Si c'est du puceron à l'extérieur qui oblige la feuille à se crisper, et ben un petit peu d'eau savonneuse, ça tue des pucerons. Et si c'est un trouble physiologique, et ben il suffit de se poser la question, est-ce que j'ai trop arrosé? Est-ce que j'ai pas assez arrosé? Est-ce que je lui ai mis un bon compost au printemps? Est-ce que je lui ai apporté un petit peu de carbonate de chaux juste avant la taille, ou au contraire juste avant l'hiver, etc. Et dire, ben voilà, si j'ai pas fait ça, ben il faudra que je le fasse à la fin de l'été prochain, faire attention, bien le nourrir, bien apporter... Les rosiers ont besoin de chaud, hein, c'est indispensable, ils ont absolument besoin de chaud, donc s'ils n'ont pas de chaud, ils sont en général très moches, ils font des choses bizarres, et puis ils ont besoin de manger, parce que c'est gourmand, si vous voulez avoir des belles feuilles et des belles fleurs, surtout. Donc voilà, faut vraiment surveiller, et puis dans son jardin, il faut être toujours attentif, à regarder, à cueillir, à jouer un peu les tchalocoms de jardin, oui, c'est pas grave, hein, au contraire. Hein.
Petite investigation.
Sortez avec la loupe, mais c'est pas grave, on ne vous prendra pas pour une extraterrestre.
Voilà Colette, petite investigation et puis vous nous direz. Hein,
si entendu,
vous
avez un souci. Au revoir.
Dans quelques minutes, on va aller à Quiberon rejoindre Laurence. C'est bien évidemment la suite de Jardin Bleu, les experts du jardinage avec Philippe Munier, enfin l'expert du jardinage, parce que si vous comptez sur moi, vous êtes mal. Vous nous appelez 02 99 67 35 35.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
France Bleu. En Bretagne, le monde associatif bouge. Tous les jours, France Bleu Armorique vous présente une association de notre région à 6h50, 12h25 et 18h40. La sauce armoricaine, un rendez-vous France Bleu Armorique.
France Bleu, radio officielle du Tour de France présente VSD, le hors-série Tour de France, le guide touristique de la Grande Boucle. Jouez avec France Bleu pour gagner VSD, le hors-série Tour de France. Personnalité, gastronomie, art de vivre. De Düsseldorf à Paris, en passant par Troyes, Chambéry et Marseille, plus de 200 adresses consacrées aux villes et régions des 21 étapes du Tour de France.
Pour gagner VSD, le hors-série Tour de France, rendez-vous sur francebleu.fr.
Un peu sous, je déambule sur les lignes du métro. Crépuscule sans héros, solitude dans le rétro. J'éteins mon mégot sur le cœur du Jedi. Les yeux vitreux, je les mitraille. Un peu saoul, sans matricule, j'écume la nuit noire. Je consomme du bonheur que je perds sans savoir. Je t'oublie quand je me déhanche. Je souris, sauf le dimanche. J'ai le cœur. Je détruis ce qui me tente. Je ne suis qu'une fille de mon âge qui dégringole de la pente. Je n'ai qu'un œil dans la fente. Je n'ai qu'un doigt sur la tempe. Et si je rate le virage, inscris mon nom aux absents.
Avec Léa Pagé, juste à l'instant, avec Adolescente Pirate.
Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Ce n'est pas un pirate, non, c'est le flibustier du jardin. Notre ami Philippe Munier qui est avec nous et qui répond à vos questions. Et notamment, Philippe, on le disait tout à l'heure, celle de Laurence de Quiberon. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Laurence, dites-nous tout, quelle est votre question ?
Ma question est comment lutter contre les chenilles processionnaires aux nelles. J'ai ça dans mes prunus et comme j'ai un chien, c'est très dangereux pour les bêtes. Donc je voulais savoir est-ce qu'on peut mettre un produit, voilà.
Alors déjà, les chenilles processionnaires dans le prunus, ça m'étonne un peu, parce que théoriquement, elles sont soit sur le chêne, soit sur le pin, mais elles sont pas sur le prunus. Donc sur votre prunus, vous êtes sur d'autres chenilles. Alors c'est pas forcément mieux, hein, parce qu'il y en a qui sont capables de complètement défeuiller un arbre en quelques semaines. Donc c'est pas forcément plus intéressant. Mais c'est pas de la processionnaire, le type de lutte n'est pas le même.
D'accord.
Donc du coup, les chenilles qui sont sur votre prunus ne sont pas forcément mauvaises pour votre chien, même si vaut mieux pas qu'il aille renifler, on sait jamais. Elles sont pas toute chenille velue n'est pas forcément toxique, hein, pour les animaux et les hommes. Par contre, beaucoup de chenilles velues, si elles sont velues, peuvent l'être. Donc, il faut effectivement principe de précaution. On fait attention. Dans tous les cas de figure, lorsque l'attaque par les chenilles est récente, que les chenilles sont petites, le meilleur traitement c'est le jet d'eau. Hein. On les arrose au jet d'eau, on les décolle de la plante. Une chenille c'est fait pour, elle a été posée là par sa mère pour qu'elle croûte, pour qu'elle l'emmagasine, qu'elle dévore le plus possible pour emmagasiner l'énergie et devenir un insecte adulte. Lorsque l'on a fait sauter par terre, elle n'a pas l'énergie, elle ne sait pas faire, c'est pas dans son logiciel, elle ne sait pas remonter pour aller continuer de manger. De toute façon, elle n'a pas assez d'énergie, elle ne sait pas utiliser son énergie vu qu'elle est là pour la stocker, pas pour la dépenser. Donc en général, elle tombe par terre, elle meurt parce qu'elle ne sait pas remonter, et puis il y a les fourmis, puis il y a les perce-oreilles, et puis il y a les oiseaux, et puis enfin, il y a tous les prédateurs qui vont la manger, et donc le problème va être vite réglé. Mais ça marche bien quand elles sont petites, qu'elles ne s'accrochent pas. Plus elles sont grosses, plus elles s'accrochent fort. Et donc là, ça devient un petit peu plus embêtant. Donc on peut passer au stade. Deuxième stade, c'est le stade eau savonneuse avec beaucoup de savon. Parce que les insectes respirent par des tout petits pores qu'ils ont sur leur corps. Si on bouche ces orifices-là, eh bien l'animal meurt asphyxié. Donc le savon noir, comme c'est très gras, ça bouche les pores et ça asphyxie. Mais il faut vraiment mettre beaucoup de savon noir. On est sur du 5 à 7 cuillerées à soupe de savon noir dans un litre d'eau. Donc il faut un pulvérisateur qui accepte ça. Et il faut bien nettoyer son pulvérisateur après, sinon il est bouché, il est quasiment fichu. Voilà. Et puis le troisième stade, malheureusement, quand on a laissé passer les deux premiers, on arrive à des grosses chenilles qui sont
le
là.
Le canon anti-émeute.
Voilà, malheureusement, on est obligé de passer à des trucs un petit peu moins sympas. Alors, il peut y avoir le pyrètre. Le pyrètre, c'est une plante en fait, hein, c'est une plante, mais qui a un effet insecticide terrible. C'est un neurotoxique terrible tout insecte qui est touché par du pyrètre va mourir, ça c'est sûr. Et donc il faut faire attention quand on utilise du pyrètre, c'est qu'il faut le pulvériser bien sur ceux qu'on veut faire mourir. Il faut pas en foutre partout dans le jardin, parce que plus on a d'insectes dans un jardin, en général, mieux c'est.
Hein. J'imagine donc, que ça ne doit pas être très très bon pour le chien non plus.
Alors pour les animaux à sang chaud, théoriquement, il y a aucun problème.
Ah, d'accord.
Par contre, si vous avez une mare à côté, là c'est très très inquiétant parce que ça fait tout crever dans les mares. Donc il faut faire très attention aussi au milieu aquatique. Mais le pyrètre, l'avantage c'est que vous allez effectivement tuer assez facilement les gros insectes, mais faites attention, vraiment pulvériser astucieusement, intelligemment pour ne pas tuer les autres animaux qui pourraient vous aider par la suite à lutter contre ces enquiquineurs-là. Donc il faut vraiment utiliser avec parcimonie, réflexion, intelligence, hein, et voilà. Donc vous voyez, il y a plusieurs stades, mais commencez toujours par le plus léger, et le jet d'eau, c'est vraiment la solution radicale, et c'est super efficace, hein, et ça va très très vite en plus.
Et ben voilà Laurence, vous essayez petit à petit, crescendo en fait. Hein.
Dans mes prunus, ce n'est pas des chenilles processionnaires.
Non, théoriquement non, elles sont passées par là par inadvertance, mais je vous dis, il y a deux types de processionnaires en France, c'est celle du chêne et celle du pin.
Ah d'accord. Parce que mon mari a coupé les branches où il y avait des chenilles, quoi, en fait, mais il y en a encore, alors...
Ah ouais. Mais oui, couper les branches est une bonne idée aussi. Hein. Par contre, si vous voulez pas absolument couper votre arbre, si vous voulez garder un peu vos prunus, passez par ces stades-là. Mais ça tout dépend de la taille de la chenille. Hein. Je vous dis, quand elles sont jeunes au jet d'eau, elles sont dégommées tout de suite, il n'y a aucun problème. Par contre, après, il faut passer à des moyens un peu plus coercitifs.
C'est moins fatigant, hein, pour le coup. En plus, le jet d'eau, c'est pas mal.
Le jet d'eau, puis ça fait du bien à la plante. En général, elle est sympa. Elle trouve ça sympa.
Tout le monde est content. Voilà, Laurence, bon courage à vous. On va rejoindre Melinda maintenant. Bonjour, Melinda.
Bonjour. Melinda. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, quelle est votre question?
Alors, ma question, c'est le citronnier et l'oranger. Alors, j'ai un oranger qui avait perdu toutes ses feuilles. Ça fait deux fois, j'en avais marre. Je lui ai dit, tu vas aller au compost. Finalement, je l'ai mis dehors, il est revenu.
Il a eu peur.
Oui, il a eu peur. Alors, je me demande, est-ce qu'on doit les sortir ou pas? Parce que mon oranger, c'est pas vraiment m'en occuper. Alors, le citronnier, il est à la maison, il a des citrons, mais alors, il est mal coupé. Est-ce qu'on peut les couper? Il y a des feuilles qui s'allongent, qui vont même pas pouvoir supporter les citrons.
Alors, il y a plein de questions dans votre question. Donc, on va prendre dans l'ordre. Les agrumes, d'une manière générale, ce sont des plantes qui sont d'origine tropicale, mais qui supportent des climats légèrement frais. Donc, ils sont très bien dehors, entre grosso modo la fin mai et la fin septembre, mi-octobre, dernier quart. Donc, il faut les sortir, ça leur fait du bien, ils prennent du soleil, de la lumière, de la pluie éventuellement, sachant qu'ils ont toujours besoin d'avoir un support qui soit frais, hein, pas détrempé. Trempés, mais frais, hein, légèrement humide, pas plus. Ils ont toujours besoin, il faut pas, jamais qu'ils manquent d'eau, ça c'est très très important. Et être dehors, ça leur permet aussi de se défaire un petit peu de toutes les cochenilles et autres parasites qui pourraient les embêter à l'intérieur. Et puis donc, effectivement, lorsque le froid arrive, grosso modo au 15 octobre, on les rentre à la maison dans la pièce la plus fraîche possible. L'idéal, c'est de les hiverner à 10-12 degrés, c'est la meilleure température pour qu'ils passent l'hiver. Quand vous voulez, ils passent l'hiver dans le salon à 18-20, eh bien, ils sont avec trop de chaleur, pas assez de lumière et pas assez d'humidité de l'air. Et dans ce cas-là, ils développent tout un tas de maladies et surtout ça se développe les cochenilles. Alors cochenilles et boucliers, cochenilles farineuses, mais dans tous les cas, ça fait des plantes qui sont moches, qui sont gluantes, qui sont qui souffrent, etc. Donc ça, c'est la première chose. On fait attention à ça. La deuxième chose, les orangers comme les citronniers, surtout les citronniers, sont des plantes qui sont capables en même temps de fleurir, de faire mûrir des fruits et de porter des fruits mûrs. Donc, il n'y a pas de période pour les tailler. Il faut les tailler en permanence, de manière à ce qu'en permanence, des fleurs puissent éclore, des fruits puissent grossir et d'autres fruits puissent finir de mûrir.
Eh bien, voilà. Mélinda.
Et si je le mets dehors avec ses citrons, s'il y a une averse, la pluie, si elle est dure, elle va les faire tomber?
Dans la nature, quand ils sont dehors et qu'ils ont des citrons, les citrons, ils restent dessus. Et puis s'ils tombent, c'est qu'il était mûr.
D'accord.
Voilà, tout simplement. Très belle journée.
Je vous remercie.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Dernière auditrice pour ce jour, Henriette à Tintignac. Bonjour Henriette.
Bonjour, bonjour messieurs.
Dites-nous tout, quelle est votre question?
Eh bien écoutez, moi j'ai un souci avec un Medinia Magnifica Flamenco.
Oula, déjà
hein? Ça perd les popettes.
Ça craint un petit peu au niveau du nom, il craint.
Suite,
hein.
Non, je dis ce que j'ai sur mon étiquette.
Pas vous, la plante Henriette, je ne serais pas permis.
Non, mais voilà. Bon, c'est une plante qu'on m'a offerte, elle était magnifique, ça fait des fleurs superbes. Elle était en fleurs, elle a perdu ses fleurs bien sûr, et là elle a refleuri, mais les fleurs sont petites, ne sont plus rouges, et il a perdu des feuilles. Alors, d'où ça vient ?
Bon, alors, Philippe, il y a la première... C'est le premier truc, c'est de danser le flamenco autour, j'imagine, vu le nom.
C'est ça. Ça va lui faire du bien. Ouais, hein. C'est, si vous voulez, hein, mais sans moi. Sans moi.
Sans
hein.
Conviction.
Moi, je serai là pour la Palmas.
C'est
hein.
Ça.
Voilà, ça suffira. Donc, en fait, le mandenilla, c'est une plante originaire des tropiques, hein, avec ses jolies grappes de fleurs, souvent roses. Alors, je pense que si les flamenco, c'est qu'elles sont peut-être un peu plus rouges que roses. Donc, c'est des grandes fleurs pendantes, avec des grands pétales qui s'ouvrent. C'est vrai que c'est magnifique. Hein. Par contre, c'est comme toutes les plantes tropicales, il lui faut beaucoup de lumière, mais pas de soleil direct. Il lui faut un arrosage régulier, sachant qu'il lui faut aussi 2-3 mois de repos tous les ans. Hein, une fois qu'il a fini de fleurir, on le laisse se reposer. S'il ne se repose pas avec un minimum d'arrosage, eh bien, il ne refleurira pas. Hein, ça, c'est très, très important à savoir. Et puis, comme toutes les plantes tropicales, dans la forêt tropicale, c'est très humide en dessous. On est sur des fois 95, on est même des fois à saturation. On est sur des 102, 103, 105% wow. d'humidité. Ouais. Alors, dans la maison, c'est pas possible, parce que sinon, on va tout faire pourrir. Mais par contre, il faut qu'autour des plantes, du secteur plantes d'appartement, on ait au moins 65% d'humidité. C'est impératif. Si vous voulez avoir des belles feuilles, des belles fleurs qui se développent bien, il faut créer une petite atmosphère humide, 65, 70% maxi. Alors, vous créez des petites zones avec de l'eau qui coule, il y a des petites choses magnifiques qui coûtent pas cher du tout, qu'on trouve en gadgeterie ou même dans les jardineries qui font en même temps animalerie, aquarium, etc. Et on trouve des choses très, très intéressantes, jolies et pas chères. Donc oui, c'est quand même sympa. Et ça permet de maintenir, de pulvériser de l'eau. Et on a des choses très, très intéressantes. Donc faites attention à ça. Et dans ces cas-là, les plantes iront bien et se reproduiront et fleuriront correctement.
Eh bien voilà, Henriette. Voilà,
c'est pour ça qu'il a perdu ses feuilles.
Je pense qu'il a perdu ses feuilles parce que ça a été soit trop sec, soit il a eu trop d'eau. Alors, c'est idiot parce qu'on peut trop arroser une plante et que les feuilles en même temps tombent parce qu'elles sont trop sèches. Mais c'est une question, il faut que l'air soit humide aussi.
D'accord, eh ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, Henriette. Merci de votre fidélité, à bientôt. Au revoir. France Bleu Armorique, merci de nous avoir choisis. On rappelle que vous allez revenir la semaine prochaine, tout d'abord.
Si tout va bien, si vous voulez bien. Hein.
Bien sûr, évidemment. Je laisserai ma place à Daniel Mélou qui vous accompagne avec talent. Mais vous serez là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Un mot également sur une jolie opération qui se déroule tout au long de ce week-end. Il ne faut surtout pas le.
Ça va être plus qu'un mot. C'est bienvenu dans mon jardin quand même.
Ouais.
C'est tous les deux ans. Donc on peut en parler deux fois plus. Et puis en plus c'est des jardins au naturel. Hein. C'est du jardin entretenu avec amour, avec des pratiques respectueuses de l'environnement, respectueuses de l'homme. Parce qu'on sait bien que la protection de l'environnement, c'est pas pour l'environnement. C'est nous qui sommes en cause. Si on ne protège pas l'environnement, c'est nous qui disparaissons.
Oui, l'environnement continuera.
La Terre sera encore là. Donc voilà, c'est pour notre survie. Et puis, c'est plein de jardins en Bretagne. Hein. Je crois qu'on est à 171 cette année. Donc, vous avez forcément un jardin à côté de chez vous. Vous avez le site. Alors, c'est bienvenue dans mon jardin Bretagne. Tout ça, c'est en minuscule tout attaché .org, O-R-G. Hein. Vous avez la liste de tous les jardins bretons du Finistère jusqu'à la limite de la Mayenne, de la Manche et la Loire-Atlantique. Et puis, si vous habitez de l'autre côté de la frontière, sachez que dans les CPIE, il y a aussi cette opération Bienvenue dans mon jardin. Donc il faut qu'il y ait un CPIE, Centre Permanent d'Initiation de l'Environnement, à côté de chez vous. Mais sinon
venez en Bretagne. Hein.
Venez en Bretagne. Il y a plein de jardins à voir. Il y a plein de choses intéressantes. Et puis si vous voulez me voir, si vous voulez me poser des questions, sachez que cet après-midi, je serai à Domagny. Donc c'est à côté de Châteaubourg, c'est ce petit village-là. Mm-hmm. Je serai chez Yvan Huette, qui est un éco-jardinier talentueux et qui a un joli jardin. C'est la première fois qu'il l'ouvre. Alors ça s'appelle la Rivière Jouard. Hein, vous trouverez ça sur le tableau. Sur le site bienvenue dans mon jardin.org et je serai là pour vous faire visiter le jardin d'Ivan, évidemment, ouais. Avec Ivan. Et puis on parlera du sol, comment bien traiter son sol, lui parler gentiment, ne pas le matraquer, ne pas lui mettre n'importe quel produit, n'importe comment. Et puis si vous avez des questions, vous avez des petites plantes fatiguées dans votre jardin, si vous avez des photos de maladies, amenez-les, on pourra en causer dans la foulée.
Et voilà, c'est de deux manières pour vous rejoindre. Et puis, si vous voulez en savoir plus, le site internet, bienvenue dans mon jardin Bretagne, tout attaché en minuscule, .org. Merci Philippe d'avoir été avec nous.
Merci Yann,
à la semaine prochaine. Et puis, on vient vous voir cet après-midi de toute façon.
Impeccable.
Vous qui qui m'écoutez. Vous recherchez une résidence senior pour vous ou vos proches apportant sécurité, services, confort et chaleur humaine? Venez découvrir la Girondière de Saint-Malo et choisissez une résidence pensée pour les seniors d'aujourd'hui. Avec des appartements à louer, du studio aux trois pièces, des animations, une restauration sur place et des services à la carte. La Girondière, une vraie liberté dans un cadre sécurisé. 0800 96 96 90, 6 rue de la Marne à Saint-Malo. Découvrez nos offres estivales lors des journées portes ouvertes les 16 et 17 juin. Service et appel gratuit.
Ça va pas ?
Oh, c'est Corentin, il est malade. Je l'ai emmené chez le médecin et mon pharmacien m'a donné des médicaments Mylan. Tu connais ?
Bien sûr, Mylan. Ils ont des médicaments adaptés aux enfants. Jules en a déjà eu.
Ah, ça me rassure. J'ai plus qu'à me soucier de sa moyenne en orthographe.
Ah bah là, Mylan ne peut rien pour toi.
Mylan, c'est une gamme de médicaments couvrant 88% des maladies. Pour soigner les petits comme les grands. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mylan.fr ou demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
Mylan.
Mylan.
Une meilleure santé.
Pour un monde meilleur.
Classification FMRA 2016.
Législative 2017. Ce soir, sur France Bleu et francebleu.fr, vivez les résultats du premier tour des élections législatives en direct. Ce soir, à partir de 20h, soirée spéciale législative sur France Bleu et le résultat de votre commune sur francebleu.fr. Parce que ces élections nous concernent tous au quotidien, les législatives 2017 sont à vivre ce soir en écoutant France Bleu et sur francebleu.fr.
En association avec France 3, France 24 et Le Point.
Merci de votre fidélité, il est 10h. Le journal avec Eric Bouvet et on vote aujourd'hui, Eric.
Et oui, c'est parti depuis 2h pour le premier tour des législatives. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18h, sauf à Rennes, Passé et Saint-Jacques, où là ce sera 19h. Et des bureaux de vote qui ont été installés hier un peu partout en Bretagne, minutieusement préparés même à Gérard Mohamed.
Oui, comme ici à l'école Sonia Delaunay de Rennes, on s'active. Et alors là, qu'est-ce que vous faites ?
Alors là, on met les tringles pour que les isoloirs tiennent. Et c'est l'isoloir pour les personnes à mobilité réduite.
C'est physique quand même.
Ah oui.
Il sourit et pourtant Ludovic Bourgeot, le responsable de l'installation, n'a qu'une heure et demie avec ses deux collègues pour installer tout le matériel qui tient dans deux grosses mallettes.
Alors là, dans ces grosses valises, qu'est-ce qu'il y a ?
Alors, il y a tous les entrées et les sorties pour indiquer aux citoyens l'entrée et la sortie, le numéro du bureau de vote, les enveloppes pour les citoyens et les bulletins qui sont ici.
Et les bulletins, c'est encore scellé.
Et ça, oui, jusqu'à ce dimanche matin, 8h.
On n'y touche pas.
Ah non.
Non, car il y a des règles dans l'installation d'un bureau de vote. Tout est millimétré.
Eh bien, si vous voulez, on a un plan. On a la position des tables de président, la disposition des isoloirs, les tablettes, droite, gauche. Vérifier les urnes, que le compteur fonctionne bien, qu'on ne tombe pas en rade.
Forcément, vu l'enjeu, il y a un peu de pression.
Si ça arrive, admettons, à 7h30, que ce dimanche, que bah, tout est monté à l'envers et que tout est faux, je crois que ce serait la grosse panique, là. Énorme.
Ludovic Bourgeot sera de retour à l'école Sonia Delaunay dès ce soir pour démonter les isoloirs et tout remballer.